Jeudi 24 décembre 2020, dans quelques heures c'est sûr, il y aura des HomePod mini, des Apple Watch, des iPhone 12, des iPads et des AirPods au pied du sapin pour les enfants. Très très sages. Et nous, notre cadeau, c'est un best-of. Le best-of des 17 premiers numéros d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Nos meilleurs moments à nous, histoire de vous mettre en appétit avant la rétrospective de l'année 2020 pour Apple, qu'on vous prépare pour le 31 décembre. iWeek, la semaine Apple, le podcast, ça sent bon, le saumon fumé, le foie gras, le vinaigre à l'échalote, le chapon au mori et au vin jaune et les pommes dauphines. Bienvenue dans cet épisode 18, un épisode pas comme les autres et qui scintille comme une guirlande lumineuse puisqu'on va revenir ensemble sur les meilleurs moments de ces 4 premiers mois d'iWeek. Et pour cette séquence nostalgie festive, j'ai le bonheur d'être accompagné par l'un des membres de la team, Mister Eli Habitbol. Salut Eli.
Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Vous avez vu, j'ai mis mon chapeau de Noël, mais je ne vais pas le garder parce que me tient chaud.
Oui, pour ceux qui ont l'image, donc pour nos contributeurs Patreon à partir du niveau VIP qui avaient accès à la version vidéo du podcast, Eli, tu as un magnifique chapeau de Noël avec la partie haute du chapeau qui est comme un mur de briques et on voit les pieds du Père Noël qui sont entrés dans la cheminée, en fait.
Mais hein, oui, écoute, au départ, je pensais que c'était des antennes ou un truc genre un renne, et donc c'était poétique. Mais en regardant de près, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une horreur, ce chapeau. Je ne sais pas qui a eu l'idée de vendre ça dans le marché de Noël de Nice, parce qu'en fait, c'est une cheminée avec un Père Noël coincé.
C'est ça.
C'est affreux.
C'est horrible.
Je l'enlève. Et pour garder la formule en vigueur dans ces cas-là, on va souhaiter à tout le monde un noyeux Joël ou un joyeux Noël, suivant les cas.
Bon, on est là pour faire le best-of de ces 4 premiers mois d'iWeek. iWeek, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une sacrée histoire. Généralement, c'est moi qui la raconte. Est-ce que tu veux bien, Eli, pour une fois, raconter le début de l'histoire d'iWeek ? C'était non pas il y a 4 mois, mais il y a 8 ans.
Mais oui, et même pour nous deux, c'était même plus ancien que ça, parce que je me rappelle encore de la première fois où on s'est vu à la sortie d'une keynote Apple. Hein. Je pense que tu étais encore chez Europe, hein, pour te dire à quel point.
Et
tu m'avais posé des questions sur les annonces Apple de l'époque. Tu vois, déjà, on parlait de ça entre nous. Et
absolument.
Puis on s'était évidemment pas quittés. On se croisait régulièrement dans les keynotes, dans le CES, etc. Et puis un jour, tu m'as appelé et tu m'as dit que tu pensais que tu travaillais à un projet un peu fou, créer une chaîne de télé sur Internet qui allait émettre 24 heures sur 24 avec plein d'émissions, hein, dont une qui allait s'appeler iWeek et qui allait parler d'Apple. Et donc évidemment, déjà à iWeek, déjà je pense que tu m'avais vendu le truc, mais avec la description, ben, je pense que... Comment tu peux résister ? On est parti pour des années de folie et on s'est bien marré ensemble. Je crois que ça a été une période incroyable.
Voilà, on a fait plus de 300 émissions sur Watch jusqu'en 2019. Mm-hmm. Été 2019, Watch a dû s'arrêter. Et puis, on a tous cru qu'iWeek s'arrêtait aussi et disparaissait avec Watch. Et puis, il s'est passé un an. Et l'été suivant, et donc l'été dernier, Eli, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, écoute, nous, on avait presque perdu l'espoir, mais pas complètement. Hein. Et donc, tu nous as recontacté pour dire, ça y est, je pense que j'ai trouvé une solution. On va faire un podcast. Pas qu'un podcast, mais déjà, commençons par le podcast, et c'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai qu'on avait gardé un peu un contact épisodique avec nos auditeurs en faisant des keynotes, mais bon, à chaque fois, c'était vraiment presque à l'arrache, et je crois qu'il fallait faire un saut de qualité et un saut dans la régularité, et je pense que iWeek, maintenant, c'est devenu ça, c'est ton idée, c'est comme ça que tu nous l'as vendu, donc il fallait qu'on passe au niveau supérieur, donc il fallait qu'on soit plus exigeant au niveau de la qualité, plus régulier pour que nos auditeurs s'habituent à nous retrouver le même jour, à la même heure. Bref, devenir pro, hein, donc, et surtout pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Et je pense que les premiers épisodes nous ont montré que c'est super de viser très haut, mais c'est encore meilleur quand on y arrive.
Absolument. Alors tout ça a pris forme effectivement l'été dernier. On en a parlé, la bande s'est retrouvée. En tout cas, une grosse partie de la bande qui avait débuté à la télé. Et puis ça a donné une bande-annonce qu'on a mise en ligne le 29 juin 2020. Et puis un numéro zéro qui nous a servi de rodage. Et donc je te propose qu'on fasse un premier retour en arrière. Le premier retour en arrière de ce best-of, c'était le 2 août 2020. C'est un premier épisode qui n'en est pas un, plus qu'une bande-annonce et pas encore tout à fait un premier numéro. Bienvenue dans ce super teaser d'iWeek, la semaine Apple, sans attendre une seconde. Abonnez-vous, c'est gratuit pour ne rater aucun épisode et les avoir dans votre poche dès qu'ils sortent. Toute la bande est là avec moi, ou presque. On va vous raconter qui on est, d'où on vient et surtout ce qu'on veut faire. Alors ne bougez pas, iWeek, la semaine Apple, numéro 0. Les gars, c'est parti. Élie, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti le jour où on s'est retrouvés pour ce numéro 0?
Oh, écoute, oui, je pense. La première idée qui me vient à la tête, c'était un grand bonheur. Franchement, parce qu'on s'est dit, ça y est, on y est, on va le faire. C'était vraiment incroyable, hein. Je crois que c'était le départ d'une nouvelle aventure et c'était vraiment super.
Et puis c'était un petit peu inespéré parce que même ceux qui nous suivaient sur Watch pensaient qu'on ne reviendrait pas.
Oui, c'est vrai, parce que ils avaient un peu l'habitude qu'on soit pas si régulier que ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois on avait des circonstances spéciales un peu, etc. Et donc des gens nous reprochaient de pas être toujours là au rendez-vous et d'être un peu aléatoire, et on s'est dit non, vraiment cette fois-ci il faut qu'on tienne le rythme et qu'on tienne le contenu, qu'on tienne les rubriques, que les gens s'habituent à savoir de quoi on va leur parler et qu'ils aient des petites rubriques un peu fétiches que certains adorent, je pense que la plupart les aiment bien, on les fera évoluer en fonction des remarques qu'ils nous font, mais pour l'instant je pense qu'on a trouvé nos marques et je pense que nos auditeurs s'y retrouvent.
Alors on a démarré avec le numéro 1, qui a été le premier vrai numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'était le 27 août, faut se rappeler, c'était il n'y a pas si longtemps. Ça fait à peine, ça fait moins de 4 mois, en fait. Et on a démarré avec une mauvaise nouvelle, puisque le Covid était là, en tout cas était en train de revenir. Et on avait une conviction, c'est que le Covid allait décaler l'arrivée de l'iPhone 12. On vous l'a dit dès le numéro 1,
oui.
Et voilà ce que ça a donné. Il aura suffi que quelqu'un chez Apple lance un test de streaming vidéo sur YouTube avec une date de live et un compte à rebours fixé au 10 septembre pour que la rumeur se répande à travers le monde en quelques heures. La prochaine keynote aura-t-elle lieu le 10 septembre? Peut-être, peut-être pas. Ça n'a en fait jamais été aussi sûr. D'abord, il y a les autres hypothèses en septembre, et puis il y a ce risque que le Covid ait décalé le calendrier et que, contrairement à ce qui était devenu une habitude, le nouvel iPhone ne soit pas dévoilé en septembre, mais en octobre, et pourquoi pas encore plus tard. Alors, à quelle date la keynote et quelle est l'onde de choc du coronavirus sur cette fin 2020 pour Apple? On va en discuter. Bon, Élie, sur le lancement de l'iPhone 12, on ne s'était pas trop trompé, hein.
Et non, hein, tu as vu, on a changé d'avis une ou deux fois, mais notre première impression était la bonne. Hein. C'est absolument. Qu'on a été vraiment tellement bombardé d'informations qu'à un moment donné, on doutait presque de nos propres convictions. Hein. C'est-à-dire.
C'est vrai. Alors mais donc, lancement, ouais. Lancement le 27 août, et puis deux semaines plus tard, c'est la première keynote de la rentrée. Ça aurait dû être la keynote de l'iPhone 12. En fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, mais pour nous, surtout, ça a été un événement parce que c'était notre première keynote en tant que iWeek, la semaine Apple, le podcast. Et comme tu le disais très bien tout à l'heure, on a essayé de monter d'un cran ou deux crans ou dix crans, en tout cas. On a entrepris un chemin vers une grosse évolution de la qualité de ce qu'on faisait. Et en tout cas, on a retrouvé le plaisir à faire les keynotes. Bon, et du coup, cet automne, hein, on en a eu trois des keynotes, on va y revenir. Les semaines de keynote pour nous, Élie, à chaque fois, c'est, on peut le dire, hein, c'est des semaines de dingue. Hein.
Ah oui, c'est en même temps passionnant, en même temps on est bombardé d'infos donc de tous les côtés, donc toutes les rumeurs les plus folles arrivent jusqu'à nous, il faut faire le tri, en même temps on est très excité parce qu'on sait qu'il va y avoir des choses, et puis cette fois-ci je pense que ça a été quand même mieux parce que on avait été habitué à des keynotes Apple, on était à chaque fois déçus. Rappelle-toi qu'on démarrait les keynotes en disant « tout ne sera pas annoncé, de toute façon vous serez déçus ».
Oui, c'est vrai.
Et puis on manquait un peu d'innovation. Je pense que Apple avait perdu un peu de magie et on commençait, nous, presque à douter d'Apple. On devrait être châtié pour cela. Mais, mais bon, je pense qu'Apple a profité de cette période de Covid pour se réinventer. Ils ont pris le temps de faire du neuf. À tous les niveaux, c'est-à-dire que bah, le premier extrait que vous avez vu et qui s'est répété, ce sont des keynotes maintenant qui ne sont plus en réel dans une scène avec les aléas du direct, avec des démos qui sont prudentes parce qu'elles peuvent rater. Bon, là, ils ont fait des moyens de techniques qui se sont améliorés à chaque keynote. Donc à chaque fois, on se croirait dans un film de science-fiction tellement c'est bien fait, etc. Et puis surtout, ils nous ont sorti un florilège de produits. Donc, on n'avait, je pense, jamais eu autant de produits Apple dans une période aussi courte.
Oui, parce qu'on va le rappeler, il y a eu 3 keynotes en moins de 2 mois. Et alors, j'ai repris les dates. On est exactement à 4 semaines d'intervalle entre chaque keynote.
Oui.
C'est un intervalle dont on va sans doute se souvenir à l'avenir.
Oh oui.
Hein ?
Et surtout, ce n'était pas des petites keynotes, hein, parce que chacune d'entre elles avait quand même pas mal de produits. On en parlera la semaine prochaine dans le best-of de l'année, cette fois-ci, avec toutes les annonces Apple. Et vous verrez que chaque keynote a été importante. Parce que dès le départ, il y a eu des nouveautés, quoi.
Ouais. Bon, comme on l'avait prévu, Ellie, l'iPhone 12 n'était pas pour le mois de septembre. On a quand même eu du mal à l'accepter. Enfin, moi, j'avais tellement l'habitude que la rentrée coïncide avec le lancement des iPhones, que j'avoue que cette première keynote avec les iPads et l'Apple Watch m'a laissé un petit goût d'inachevé.
C'est vrai. Mais tu sais, Apple, je pense qu'ils ont été contraints. Ils auraient voulu annoncer des iPhones en septembre s'ils avaient pu, parce que ça, imagine que c'est une perte de revenus énorme, le fait de ne pas pouvoir avoir un revenu avant la clôture de l'année, qui chez Apple est fin septembre, comme d'ailleurs pour nous. Donc nous, on a vu ce que ça nous a coûté qu'il n'y ait pas d'iPhone au mois de septembre, voire même pendant les premiers 15 jours d'octobre. Donc on peut le mesurer. Hein. Et pourtant, ça a été une bonne année. On a clôturé notre année fiscale au 30 septembre, comme Apple. Donc on a eu les résultats il y a quelques jours. Et on voit très nettement l'impact du retard de l'iPhone. On pense qu'on va évidemment rattraper ça probablement en janvier, peut-être en février, parce qu'aujourd'hui, tous les iPhones sont lancés, on peut le dire. Sauf que les quantités sont tellement petites qu'on n'arrive pas vraiment à satisfaire nos clients. Donc malgré toutes ces annonces...
Encore aujourd'hui ?
Oh oui. Oui, oui. Il y a une pénurie incroyable, par exemple, de l'iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 Pro, c'est un produit qui est rarissime. Et pourtant, il est très, très demandé. Alors, si en plus, tu veux du 256Go et en Pacific Blue, alors là, si tu veux, c'est une sorte de Graal. Il y a une quête. Des clients qui vont partout, qui demandent partout, qui cherchent, qui sont désespérés. Et il n'y en a pas. Hein. C'est comme ça. C'est Apple. Bon, l'art de la pénurie.
Donc, ça a été la fin d'une tradition qui a été respectée depuis 2000... 2000, pas la première année parce que
si non, on remarque,
la première année,
les
non,
deux
première
premières
année,
années
on était en janvier, ouais, ça.
Oui, les deux premières années il y avait eu une annonce, une en janvier, mais la dispo était juin, l'année d'après, et puis après ça s'est stabilisé. Je pense que c'était au niveau de l'iPhone 3G
qu'on a commencé
à avoir des annonces en septembre. Mais c'est vrai que la tradition, on y tient. Hein. Et puis tu sais, comme on a l'habitude d'écouter dans les westerns, on disait qu'il pleuve ou qu'il vente. Rien n'arrête ni la diligence du Pony Express, ni les annonces Apple du mois de septembre. Donc ça c'est vraiment la tradition. Mais malheureusement, Apple, je pense qu'ils ne pensaient pas qu'il y aurait un truc qui s'appelle le Covid-19.
C'est ça.
Et même Apple n'a pas pu quand même faire ce qu'il voulait, parce que le développement d'un iPhone, c'est un voyage incessant entre Cupertino et Schengen, des ingénieurs qui vont dans les deux sens, 3 à 4 fois par semaine, ça doit coûter un prix dingue en billet d'avion, pour voir des prototypes à chaque étape, faire des remarques, revenir voir l'évolution, est-ce que ça a été corrigé, est-ce que... Et là, ça a été complètement interrompu. Et par Zoom, ou Teams, ou ce que vous voulez, on peut faire des choses, mais c'est pas quand on peut toucher le prototype sur une table, hein. Donc, ça a ralenti le développement.
Voilà, donc la gamme iPhone est finalement annoncée le 13 octobre et puis suivra la keynote avec les Mac M1 le 10 novembre. On va y revenir un jeudi prochain dans la rétrospective 2020 pour Apple. Ne ratez pas évidemment cet épisode 19 qu'on vous prépare déjà. Alors dans iWeek, Eli, tu le sais mieux que quiconque, hein, on aime l'info autour de l'univers Apple, mais on aime aussi innover.
C'est vrai.
Et dès l'épisode 1, on était avec Jean-Christophe Vigne à 10 000 mètres d'altitude, quelque part entre Paris et New York, pour un vu d'ailleurs qui restera dans les annales et dans nos souvenirs.
Alors c'est extrêmement particulier pour vous. Malheureusement, on n'a pas la vidéo, mais vous verriez qu'évidemment, je porte un masque, comme tous les gens dans l'avion. J'ai mon micro derrière le masque pour que vous n'ayez pas trop de souffle, parce qu'un avion, ça fait du bruit. Et je ne parle pas trop fort parce que c'est la période où on est censé dormir, les rideaux sont tirés et je suis dans le noir.
Voilà. Bon, écoute, c'est formidable que tu puisses être avec nous. En tout cas, c'est très fort en signification pour moi et ça me fait très plaisir. Donc, en direct du Paris-New York d'Air France pour ce retour d'iWeek. Et puis, tu vas arriver aux US, un pays en pleine effervescence entre le Covid et la présidentielle, puisqu'on est à 68 jours du 3 novembre. Bon, Eli, c'était super sympa. Hein. Puis, c'était un peu magique aussi de faire ce duplex avec Jean-Christophe, qui était donc à bord de ce vol transatlantique d'Air France. C'était fou.
Ah oui, on se croirait au meilleur moment d'Ushuaïa, tu sais, avec en plus le bruit de fond.
Oui, c'est ça.
Ah oui, c'était assez magique.
On avait presque les hommes d'affaires qui ronflaient en business à côté de Jean-Christophe.
Et oui, car il faut le rappeler, Jean-Christophe voyage en business.
Parfois.
Parfois.
Bon, vous le savez, iWeek, c'est vous, évidemment. C'est nous, la team, avec toi, Eli Abitbol, avec François Le Truédic, avec Jean-Christophe Vigne, avec Gilles Dounès, qu'on va retrouver tout à l'heure et qu'on embrasse, évidemment. Et c'est aussi, dès que l'occasion se présente, des invités. Et Eli, alors moi je trouve que sur les 4 premiers mois, on a été drôlement gâtés. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ah oui, là j'avoue que vraiment tu as fait très fort au niveau des invités cette année parce qu'ils étaient tous les 3 topissimes, vraiment. Hein.
Et même tous les 4 parce qu'en fait il y en a eu 4.
Ah 4 ? Que j'en ai oublié un, ça y est ?
Oh là là. t'as oublié sans doute Ariel de la semaine dernière, hein, c'était le dernier, le tout récent. Alors le premier invité qu'on a reçu dans iWeek, Eli, c'était Bertrand Gier. Bertrand Gier, il est directeur délégué du Pôle News du Figaro et président du groupement des éditeurs de services en ligne, le GEST. Avec Bertrand, on a longuement discuté des relations entre Apple et les médias français, et notamment de cette commission de 30%, dont les petits développeurs, ceux qui engrangent moins d'1 million de dollars par an, ont obtenu, depuis cette interview, qu'elle soit ramenée à 15% à partir du 1er janvier, donc dans quelques jours. C'était un échange passionnant avec Bertrand et je vous propose de réécouter un passage de cette longue interview qu'il nous avait accordée.
On se rend quand même bien compte qu'on a un sujet sur la diffusion d'informations dans le monde et dans nos sociétés, qu'il y a de plus en plus de fake news, que les réseaux sociaux font beaucoup de mal sur la divulgation de ces fake news, que les États deviennent des producteurs d'informations, donc avec tout ce que ça comporte dans la manipulation des opinions, etc. Et donc plus que jamais, on a besoin d'une presse indépendante, professionnelle, sérieuse, etc. Cette presse-là, elle est en danger de disparition. Ce n'est pas des 20 mots, hein, c'est la réalité, c'est ce que je vis au quotidien. Et donc, on pense que ce sont des valeurs qui sont partagées par Apple, globalement. Le fait de dire, dans nos démocraties, on a besoin de transmettre des idées, on a besoin d'avoir des gens qui soient objectifs, qui font leur travail de journaliste. Vous avez des cartes de presse, vous savez ce que ça représente. Et donc, on pense que ces valeurs sont proches de celles d'Apple. Voilà, et on se dit que à défaut d'abolir la totalité des 30% pour toutes les applications sur le store, peut-être que une petite exception en ce qui concernerait la presse d'information, la défense des idées, etc., qui doit peser une goutte d'eau dans l'océan des revenus d'Apple, nous aiderait fortement et ne les pénaliserait absolument pas.
Voilà, c'est un gros enjeu hein, maintenant pour la presse française, cette commission d'Apple qui se prend 30% quand même hein, sur le prix de vente des abonnements. Oui. Peut-être que la brèche ouverte par les petits développeurs va faire
jamais,
son chemin.
On va envoyer un message, Tim, si tu nous écoutes, ben voilà, il n'y a qu'un. Hein.
Bah, on sait qu'il est abonné, alors il nous écoute
bah
peut-être.
Oui, c'est pour ça que je dis ça.
Bon, quelques semaines après Bertrand Gir, on avait fait appel à un technologiste pour nous éclairer sur la puissance réelle du processeur M1 qui équipe, vous le savez, les nouveaux Mac. Et cet épisode 14, avec Florent Morin, a été totalement passionnant. Tu t'en souviens, Ellie ?
Ah oui, oui, très bien. En plus, il connaissait son sujet par cœur et moi, je suis développeur. Peut-être que certains ne le savent pas, mais moi, j'ai commencé à développer. C'est comme ça qu'on a créé la société. Et je suis enregistré chez Apple, s'ils regardent leur registre, depuis 1981 ou 82, quand ils ont ouvert le service wow. Apple Developer. Et donc, tous les ans, je paye ma cotisation. Donc, même pendant, comme je moi. Pense, 5-6 ans, au départ, la cotisation était vachement chère. Hein. C'était pas une blague, hein. C'était $500 ou un truc comme ça. Hein. Bon, ils l'ont baissé depuis. Je suis même allé à la WWDC pendant 5-6 ans hein, à la suite. Maintenant, c'est devenu quasiment impossible. Hein. Bon, le problème, c'est que quand on a une société qui se développe, puis après qui devient deux sociétés, puis après maintenant jusqu'à quatre, ben, le code, c'est passionnant quand on a le temps de le faire. Et donc, malheureusement, j'ai abandonné le code, mais pas mon intérêt pour ces choses-là. Hein. Je regarde tous les ans les conférences de la WWDC et malheureusement, je n'ai pas le temps, mais peut-être qu'à la retraite, on ne sait jamais. Et donc, avoir quelqu'un que moi, j'appelle un développeur 2.0 parce que, évidemment, depuis l'époque où moi, j'ai développé, maintenant, on est passé à des choses beaucoup plus sophistiquées au niveau des langages de programmation, Xcode, en Swift, des choses comme ça. On fait du machine learning, on utilise des frameworks, on utilise plein de trucs. Donc, avoir quelqu'un qui est vraiment au top niveau de son art et qui connaît les dernières techno Apple, on a parlé machine learning, des choses comme ça.
Intelligence artificielle.
Pour moi, ouais, absolument. Pour moi, c'était passionnant. C'était une sorte de retour aux sources, un bain de jouvence qui m'a rappelé des années passées.
Voilà. Alors, si vous avez raté cet épisode 14 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, eh ben, on vous offre un retour le 26 novembre dernier avec Florent Morin.
Pour ce qui est de l'actuel, des usages d'aujourd'hui, déjà, clairement, ça explose tout. C'est-à-dire que tu vas travailler plus vite, ça va être plus confortable, ça fera moins de bruit, ça consommera moins d'énergie. Déjà, c'est énorme. Et après, en fait, le matériel, on sent qu'il est prêt pour le futur. C'est-à-dire que quand tu suis un peu l'actualité de ce qu'a fait Apple au niveau du développement et de ce qui a été prédit hein, pendant les, c'est pas un secret, pendant les WWDC, Apple nous a clairement dit demain on va utiliser l'intelligence artificielle mais pour tout quoi. Pas seulement aujourd'hui on l'utilise pour de la prédiction. C'est-à-dire en fait pour ceux qui connaissent pas l'intelligence artificielle. La prédiction, ça va être par exemple quand Pixelmator prend une photo pixelisée et la rend nette. En fait, il utilise des algorithmes de prédiction. Et après, l'étape qui est la plus consommatrice d'énergie, c'est l'étape d'entraînement. Et pour ça, déjà, Apple a fait pas mal de choses sur tout ce qui est mobile avec ses propres processeurs et maintenant sur les Mac, dans le sens où tu peux réapprendre un modèle préexistant. Par exemple, pour le plus basique, c'est pour identifier une personne. Il sait reconnaître un visage et après, toi, tu vas préciser ça, c'est ma tante, ça, c'est mon oncle, etc. Et en fait, toute cette capacité sur ce type d'algorithme, ça va, c'est assez rapide, mais il y a des algorithmes qui demandent beaucoup plus de performance. Et là, en fait, ce qu'est en train de faire Apple, c'est qu'ils sont capables de rendre non seulement l'usage de l'intelligence artificielle simple par des nouveaux frameworks qui sont beaucoup plus accessibles aux développeurs, parce que sinon, faut des connaissances absolument monstrueuses en analyse de données, etc. Donc déjà, ils ont simplifié le travail pour les développeurs, pour pouvoir créer des expériences nouvelles, et en plus, ils rendent la possibilité pour le matériel de pouvoir entraîner quasiment en temps réel la donnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser l'intelligence artificielle à l'usage de chacun. Un exemple que j'ai donné et que j'aime bien donner, c'est celui de l'agent immobilier. Aujourd'hui, t'es agent immobilier, t'as, admettons, 10 ans d'expérience, tu vas arriver, tu vas pouvoir estimer un bien assez facilement. Par contre, si tu engages un junior, il va falloir le former, etc., ça va être compliqué. Et donc, il y a un vrai impact économique. Là-dessus, en fait, si ton agent immobilier a eu la présence d'esprit de garder dans un fichier Excel, admettons, tout son historique de vente en fonction du quartier, du type d'habitation et ainsi de suite, il va en fait le passer dans son application spécifique d'apprentissage de machine learning, en fait, qui va lui permettre de fournir une application à son agent qui sera junior, et l'agent junior profitera de toutes les connaissances de l'agent immobilier senior sans avoir les compétences. Et il arrive sur le terrain, il est directement opérationnel et il fera pas d'erreur. Parce qu'il profitera d'intelligence artificielle dans son quotidien. Et là, c'est un véritable impact économique.
Allez, on passe au troisième invité qu'on a eu cet automne, Ellie. On est 2 semaines plus tard et on voulait bénéficier de l'expertise d'un pro du son et notamment du son spatialisé. C'était Gilles Gérin, notre confrère journaliste au magazine Les Années Laser, dont tu es un fidèle.
Oui.
Et ben, il était juste parfait, Gilles, pour nous mettre plein les oreilles à propos des AirPods Max. Qu'est-ce qui peut faire que ce casque soit clairement au-dessus des autres, de ceux auxquels on pense et dont on a déjà parlé il y a 2 secondes, en termes de technologie, de rendu?
Alors c'est plutôt le background par rapport à Apple. Donc déjà, je sais qu'ils ont une puissance et une connaissance en audio, et ils ont du personnel pour faire la recherche. Ils avaient embauché par le passé Tom Holman, donc THI, je vais pas revenir sur l'histoire. Donc en tout cas, ils ont
une personne compétente. Redis-nous, parce qu'on ne connaît pas, nous, on ne le connaît pas.
En fait, Tom Holman, qui est un des gars à l'origine du THX, donc du format audio des salles de cinéma premium, co-développé avec George Lucas. On dit même que le TH de THX, c'est Tom Holman Experiments. Donc voilà, donc c'est vraiment un expert de l'audio, et il a été embauché il y a quelques années par Apple, notamment pour développer le HomePod. Donc voilà, c'est une personne vraiment compétente sur la partie audio, et il avait développé aussi un format qui était en 22 canaux, il me semble, de son spatial. Donc c'est question de son spatial, et voilà, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Donc ça, c'est le premier point. C'est, je pense que Apple a la connaissance et le personnel pour développer des bons produits. Après, ce qui est important dans l'acoustique moderne, sachant que la technologie de haut-parleur n'a pas évolué depuis 80 ans, c'est toujours un système avec une membrane mise en mouvement par effectivement des aimants, c'est toute la partie traitement numérique. Donc la manière dont on pilote un haut-parleur, et là-dessus, Apple a des puces, on le voit, phénoménales. On est en train de parler de puces, je crois, il y a 10 cœurs dans ce qui est embarqué, et encore pour chaque oreille. Donc c'est une puissance de calcul, mais de un bazooka pour gérer de l'audio, finalement, qui n'est pas non plus quelque chose d'ultra complexe à gérer. Donc je veux dire, toute cette puissance de calcul est capable de compenser le moindre défaut que pourrait avoir de distorsion du haut-parleur, etc., etc. Donc voilà, donc il y a cette puissance. Mais après, c'est toujours pareil, c'est comment on l'utilise. Donc voilà, c'est ça qui me fait confiance. J'ai confiance en ce qu'ils peuvent faire. Après, c'est toujours pareil, un constructeur va choisir une signature audio. Donc après, cette signature, c'est ce qu'on va entendre au final. Il va mettre toute cette technologie pour aboutir à cette signature audio. Et c'est ce qu'on va aimer ou on ne va pas aimer. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de subjectivité qui rentre. Mais après, voilà, c'est un choix. Et c'est vrai que ce qui est amusant avec les signatures audio, c'est que ça peut se changer aussi par un changement de paramétrage. Donc on peut basculer du tout au tout simplement par une mise à jour. Donc un produit n'est pas fixe dans son rendu audio, en tout cas un produit moderne. Contrairement à une enceinte passive, qui elle, une fois qu'elle a été conçue par son concepteur, elle va sonner de la même manière du début jusqu'à la fin de sa vie. Avec les produits modernes, où la partie électronique d'amplification et surtout de correction est intégrée directement dans le device, on peut fondamentalement changer les choses. Et on introduit surtout, voilà, c'est là la grosse nouveauté, c'est ce qu'apporte Apple, c'est qu'on va apporter des petites choses amusantes qui sont la spatialisation audio. On en parlera encore un peu, je pense, un peu plus tard. Mais voilà, ça c'est ce que permet le traitement numérique.
Bon, et puis la semaine dernière, c'est peut-être l'invité que tu avais trappé, Ellie. Pourtant, c'est un sujet qui te passionne. On parlait 5G avec l'annonce des forfaits sans surcoût de Free. Et j'avais demandé à un copain journaliste spécialiste des télécoms, qui s'appelle Ariel Gomez, de venir nous éclairer. Et on a bien compris avec lui que la 5G, alors peut-être pas tout de suite, mais elle en a vraiment beaucoup dans le ventre.
La 5G en 26 GHz, c'est-à-dire ce qu'on appelle
C'est ça.
effectivement les ondes millimétriques, ça va arriver à partir de 2023. Là, pour le coup, c'est une vraie révolution.
Voilà.
Donc, on va changer le cœur de réseau des opérateurs. Il y aura des capacités nouvelles comme la gestion des objets connectés assez massifs, jusqu'à 1 million d'objets connectés au kilomètre carré. Il y aura ce qu'on appelle la technologie du beamforming, c'est-à-dire que au lieu de les antennes, au lieu d'émettre tout le temps en toute direction, vont créer un faisceau entre l'antenne et le terminal de l'utilisateur. Donc ce ne sera pas une dispersion d'ondes de partout, mais ce sera une communication bien orientée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la release 16 de la 5G, et c'est au moins 2023. Et là, pour le coup, avec des débits beaucoup plus importants, pour le coup, là, le saut en termes de débit, il est très important, mais en fait, cette fréquence sera beaucoup plus utilisée essentiellement pour des applications industrielles ou des choses comme ça. Donc il y aura ça, des applications très intéressantes pour la santé, par exemple la télémédecine. On pourra faire des interventions à distance. Vous avez dû le voir déjà, il y a des vidéos qui tournent là-dessus, d'interventions 5G qui sont faites à distance. Enfin, donc voilà, c'est pas pour tout de suite. C'est effectivement à ce moment-là, il y aura ça, mais on ne sait pas s'il y aura beaucoup d'applications de la 6 giga pour les particuliers. Il y en aura fort probablement sur tout ce qui est divertissement, sport. C'est là qu'on pourra avoir accès à par exemple, des matchs de foot ou d'autres sports avec en option multicaméra, où l'utilisateur pourra choisir la caméra qui lui convient pour suivre l'action. Donc ça, ce sont des applications intéressantes, effectivement, mais c'est pas pour tout de suite.
Bon, Eli, on était vraiment sur un de tes sujets favoris avec la 5G. Hein.
Mais écoute, ça l'est devenu parce qu'au départ, c'était une curiosité et une techno qui allait arriver. Et puis, comme je me suis penché et que je voulais faire comprendre à tout le monde quelle était la vérité, qu'est-ce qui allait marcher, qu'est-ce qui allait pas marcher, qu'est-ce qu'on allait avoir en France, et puis casser un certain nombre de mythes. Est-ce que la 5G provoque le Covid? Est-ce que la 5G est liée à un vaccin? Enfin, on a eu entendu tellement de choses. Donc, du coup, je me suis vraiment penché sur le sujet. Et puis, on a appris des choses passionnantes. On sait tous maintenant qu'il y a deux 5G, une super rapide, mais très chère, et une un peu moins rapide, mais plus rapide quand même, mais moins chère. En France, on a aussi deux 5G, mais pas les mêmes. Hein. Donc, nous, on est toujours en France, on a notre petite spécialité. Donc, on a deux 5G, une moyennement rapide et une encore un peu moins rapide, mais très répandue, puisqu'en fait, c'est une 4G déguisée. Hein. Je pense que c'est du marketing. On utilise la fréquence de la 4G, et je pense qu'on ne peut pas faire de miracle. Ça serait super étonnant qu'on arrive à faire de la 5G avec de la 4G. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, du coup, je profite, comme on est tous les deux ce soir tout seul, hein, et que personne ne nous écoute.
Profite, mon Eli, profite.
Voilà. Donc, pour vous raconter ce qui s'est passé depuis la dernière fois sur la 5G, parce que je vous avais promis un test, et surtout depuis que Benjamin m'a expliqué comment activer la 5G sur mon compte free, parce qu'au départ j'avais raté une étape, et donc écoute, je l'ai fait immédiatement. Bon, c'était resté en 4G, hein. Je suis descendu de mes collines, j'étais toujours en 4G, donc je me suis dit bon, il y a encore un truc qui ne marche pas, mais quand même, j'ai profité d'une petite balade, puisque vous savez que j'ai passé une petite semaine à m'occuper d'un petit garçon qui a 3 mois, hein, donc de mon petit-fils, que j'ai eu le bonheur de pouvoir promener dans Nice. J'ai fait énormément d'exercices. Hein. François serait très fier de moi parce que j'ai eu une mention spéciale dans mon Apple Watch qui m'a dit « Vous avez explosé vos anneaux ». Au départ, je me suis dit « Waouh ». Et donc, je me suis pas mal baladé dans Nice avec une poussette. Et évidemment, j'avais mon téléphone à la main, tant qu'à faire. Et j'ai fait des tests. Alors déjà, la première chose, quand on arrive sur la promenade des Anglais, parce que je vous avoue un secret, à Nice, on a de la 5G. Mais on a de la 5G, pour ceux qui connaissent Nice, promenade des Anglais, place Masséna, qui est le centre de Nice, et avenue Jean Médecin, qui est la grande avenue commerçante. Quand on s'éloigne un peu de cet hypercentre, pour l'instant, on n'est pas vraiment en 5G. Mais même dans cet hypercentre, c'est extrêmement variable. Parce que les tests que j'ai faits, je les ai faits sous speed test et j'ai gardé les copies d'écran, hein, donc on pourra les mettre sur Twitter si ça intéresse les gens. Ça va depuis de la 3G-, c'est-à-dire en fait quasiment très très peu de débit, mais il y a marqué 5G, mais il n'y a pas de débit, jusqu'à 2,5 fois la vitesse de la 4G en moyenne, c'est-à-dire en fait, je suis arrivé à 180 mégasecondes, c'est pas le 1 giga qu'on aura un jour, mais c'est déjà beaucoup mieux que la 4G qu'on capte à Nice habituellement. Donc c'est plutôt bien, 180 mégas, on peut faire des choses. Et puis bon, comme il n'y en a pas partout, on va dire que c'est une phase de déploiement, hein, donc je suis assez optimiste. Alors pour l'anecdote, et ça sera ma dernière phrase parce que sinon je vais me perdre, les tests sous speedtest.net dépendent du serveur qu'on a en face. Donc comme j'ai l'habitude un peu de le faire sur mon ordi, j'ai des serveurs de référence. Typiquement quand on va taper Orange France à Paris, on a du débit en face, c'est-à-dire qu'il nous donne la vraie bande passante. Bon, donc je me suis dit, on va démarrer sur Orange France. Et là, j'ai eu un débit pourri, mais de chez pourri. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et donc, je me suis dit, bon, à Nice, il n'y a pas encore de 5G Orange, mais il y a de la 5G SFR. Donc, je me suis dit, allons voir SFR France. Et là, le débit a été multiplié presque par 10. Par 10. Et je me suis dit, c'est bizarre. Alors, est-ce que Orange voit que c'est un signal 5G et casse le débit parce que eux ne sont pas encore à Nice? Est-ce que c'était un hasard? Je ne sais pas, mais en tout cas, le problème de ces premiers tests que j'ai faits, c'est qu'ils ont une fiabilité qui est très relative et j'attends si d'autres personnes ont fait des tests 5G dans d'autres villes ou s'il y a un serveur de référence qui soit un peu agnostique, c'est-à-dire qu'il ne va pas pénaliser s'il voit arriver un signal free sur un serveur Orange ou un signal SFR ou un truc comme ça. Je suis prêt à refaire les tests, mais pour l'instant, je vous livre ce que j'ai eu. C'est pas mal, je pense qu'on peut faire mieux, mais on a fait avec ce qu'on avait. Voilà.
Merci Élie pour ce point à date sur la 5G, en tout cas à Nice.
Yes.
Je capte aussi de la 5G, moi, à Paris, dans le 13e. J'ai deux barres et j'ai atteint 66 mégas avec deux barres seulement.
Ouais, ce qui est de la bonne 4G, on va dire.
Ce qui est pas mal. J'ai jamais eu ça en 4G, hein. Même avec 4 barres. Hein. Donc, c'est sensiblement mieux, mais voilà. Comme tu le dis, on en est qu'au début du déploiement et donc un petit peu de patience. Alors, iWeek, comme je vous le disais. C'est l'actu, vous l'avez compris, avec les keynotes et puis avec l'info de la semaine tous les jeudis avant 20h hein, qui ouvre chaque épisode. Mais iWeek, c'est aussi de l'info pratique pour vous aider à tirer parti au maximum de vos devices. Et pour ça, on a créé une exclusivité mondiale qui s'appelle le tuto audio. Et dans iWeek, on vous explique comment faire chaque semaine avec le tuto audio. Deux exemples, comment profiter du picture-in-picture dans YouTube sur votre iPhone, fonction que YouTube voudrait vous empêcher d'utiliser. Et puis, comment savoir s'il est temps de changer la batterie de votre iPhone? Deux exemples juste pour vous donner envie. Le problème, c'est que sur ce site mobile de YouTube, le picture-in-picture est bloqué par YouTube. Mais il ne l'est pas sur le site pour ordinateur de YouTube. Il va donc falloir basculer. Alors, pour basculer, il suffit de cliquer à gauche de la barre d'adresse dans Safari sur les deux lettres A en capitale. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Elles sont côte à côte. Ça va vous faire apparaître un menu déroulant avec afficher le lecteur, masquer la barre d'outils et juste en dessous ce qu'on cherche, à savoir version pour ordinateur. Vous cliquez dessus et là vous retrouvez en fait dans la version pour ordi de YouTube dans Safari. À partir de ce moment-là, si vous passez en plein écran et que vous cliquez sur le bouton Picture in Picture, et bien vous vous êtes libéré du blocage de YouTube. Vous pouvez sortir de Safari, lancer WhatsApp par exemple, ou Insta, ou n'importe quelle app,
26, donc quand vous êtes à 26,
et vous continuez à écouter ou à regarder en petit votre contenu YouTube sans interruption. Ça marche, Élie ?
Absolument.
Alors d'abord, il y a plusieurs symptômes que vous pouvez détecter. L'autonomie peut passer de plusieurs heures à quelques heures seulement, voire se compter en minutes, même avec une batterie pleine. Le lancement d'appli peut devenir plus lent. Le volume du haut-parleur peut devenir plus faible. Et puis la batterie peut avoir tendance à chauffer. En principe, la batterie de l'iPhone est conçue pour conserver 80% de sa charge au bout de 500 cycles de charge complet dans des conditions normales, notamment de température. Et donc pour être fixé, allez dans Réglages, Batterie, État de la batterie et regardez la capacité maximum de la batterie. Si ce pourcentage est inférieur à 80%, la question du remplacement de votre batterie se pose. Dans ce cas, comptez environ 70 euros selon le modèle d'iPhone dans un Apple Store. Bon, c'est un drôle de concept, Ellie, un tuto audio.
Ben oui, mais l'important, c'est que ça marche. Hein. Je pense que le monde entier nous l'envie maintenant parce qu'on arrive semaine après semaine à montrer qu'il est possible en expliquant calmement et méthodiquement que les gens comprennent ce qu'on peut faire. Et je pense que ça marche pas trop mal. Hein.
Absolument. Donc, on va continuer à vous aider toutes les semaines, à vous accompagner avec ces pratiques en fait qui sont très faciles à suivre et que vous pouvez suivre en même temps que nous, pendant que l'un de nous explique la marche à suivre chaque semaine. Alors, dans Eweek, on est aussi en veille permanente. Et ça, c'est souvent avec toi, Ellie, qu'on bénéficie de cette anticipation de ce qui nous attend. On va revenir sur trois exemples. Dans l'épisode 11, tu nous as raconté ce projet du MIT qui consiste à utiliser son iPhone pour se tester au Covid. Alors, on va réécouter l'extrait, mais en un mot, comment est-ce que tu introduirais ce nouveau?
Oui, ben écoute, c'est des chercheurs du MIT qui travaillaient sur un système d'intelligence artificielle qui permettait de détecter un certain nombre de maladies par rapport à la toux humaine. Et ils se sont dit, puisque une des caractéristiques du Covid-19, c'est que les gens toussent, et même beaucoup, ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait apprendre à notre système d'AI à reconnaître un malade qui présente les signes du Covid, ou alors quelqu'un qui n'est pas malade du tout, ou alors quelqu'un qui présente les signes mais qui est asymptomatique. Voilà. Et c'est très spectaculaire à entendre.
Voilà, c'était donc dans l'épisode 11 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'est tout nouveau avec toi, Ellie. Ellie, je crois que tu as un extrait d'un fichier audio du MIT avec trois toux successives. C'est quoi les trois toux qu'on va entendre ?
Alors, en premier lieu, c'est une toux normale, c'est-à-dire un individu qui est sain, qui n'a aucun symptôme, et on lui a dit bah, tous. Donc, il fait une sorte de fausse toux, mais voilà. La deuxième échantillon, c'est une personne asymptomatique, donc qui normalement ne présente pas de symptômes Covid, donc il ne devrait pas aller se faire tester, et pourtant. Et la troisième, c'est une personne qui vraiment est non seulement symptomatique, mais qui en plus a un Covid vraiment en cours de développement avec des problèmes pulmonaires.
Bon, on va écouter ces trois extraits de tout. On va essayer de reconnaître si on serait capable, nous, de faire la différence.
And now here is a cough of an asymptomatic person with the COVID-19. To make things even more challenging, listen to a person who has symptoms and is COVID-19 positive.
Voilà, vous pourrez l'écouter, on mettra l'adresse sur le site. L'interview complète dure 3 minutes et demie, donc c'est peut-être un peu long, mais vous avez compris le principe. Hein. On tous, moi-même, je me suis à un moment donné senti intelligence artificielle, car je crois entendre des petites différences entre les trois, mais je ne sais pas si je serais capable d'en interpréter des centaines de milliers.
Bien sûr.
Comme ça. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes toux. Hein. Quand on est vraiment malade, la troisième personne, elle n'était pas bien. Hein.
Voilà, je tousse pour tester mon Covid. Non, je plaisante.
J'espère que tu ne l'as pas, en tout cas.
J'ai fait un test antigénique hier. Tout va bien pour l'instant, donc nickel. Bon. Et puis cette veille, Ellie, elle concerne évidemment Apple et autant que possible Apple. Et c'était tout récemment, c'était il y a 15 jours. Tu revenais sur le projet de voiture autonome, en tout cas la recherche sur la voiture autonome chez Apple.
Et oui.
Peut-être relancé, hein, c'est ça ?
Écoute, c'est dingue. Hein. C'est le serpent de mer chez Apple. Donc, on en parle depuis des années. Ça va venir, ça vient pas. C'est abandonné. Ils virent tout le monde. Ils en rembauchent. On était persuadés que Apple allait se contenter d'un système de conduite autonome qu'ils allaient pouvoir vendre à tous les constructeurs. Mais la rumeur est tenace. Moi, je n'y crois toujours pas. Mais les dernières rumeurs disent que vraiment, il y aurait une voiture Apple 2024, c'est les derniers trucs qu'on a lus cette semaine. Moi, je continue à ne pas y croire vraiment parce que ça serait trop, trop limitatif. Et il y a eu un tweet cette semaine assez intéressant, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'Elon Musk qui a révélé un secret. Il a dit qu'il avait essayé de vendre Tesla à Apple pour un dixième de sa valeur de l'époque parce qu'il était pris à la gorge pendant le développement de la Model 3. Il n'arrivait pas à payer ses fournisseurs, ça allait être vraiment une catastrophe. Il a essayé d'avoir un meeting avec Tim Cook et Tim Cook n'a pas daigné le prendre au téléphone et accepter ce meeting, ce qui fait qu'Apple aurait pu acheter Tesla pour une bouchée de pain, vraiment. Et bon, quelque part, les choses sont bien faites, en tout cas pour Elon Musk qui avait investi toute sa fortune et qui avait été d'une ténacité incroyable, puisque ça s'est arrangé finalement à la dernière minute. Comme à une époque, Apple s'était arrangé à la dernière minute, oui. En 1997. Et du coup, bah, la Model 3 est sortie, la Y va sortir, etc. Et puis Elon Musk est devenu, dernièrement, on en a parlé, le deuxième homme le plus riche du monde. Et il n'est pas exclu que ça devienne l'homme le plus riche. Et Tesla, aujourd'hui, est valorisé quasiment 3 fois General Motors. Donc Apple aurait pu faire l'affaire du siècle. Mais bon... Donc, est-ce qu'ils auront maintenant la capacité de faire un Tesla 2, c'est-à-dire, on l'a dit dans une émission, fabriquer les usines, fabriquer les batteries, avoir un réseau de distribution, avoir un réseau d'après-vente, des ateliers de services, etc. Moi, je crois vraiment que c'est beaucoup plus simple d'avoir une techno incroyable et de la vendre à General Motors, à Ferrari, à Toyota. Ils ont les contacts, ils vendent aujourd'hui CarPlay à la planète entière, sauf Tesla d'ailleurs. Bon, c'est comme ça.
Voilà. En tout cas, il y a eu du nouveau dans l'équipe il y a 15 jours. Et tu nous en parlais justement dans C'est tout nouveau.
En fait, le projet Titan, d'où la mythologie, a
c'était
un nouveau chef.
C'était le nom de code du projet d'Apple Car.
Et oui. On ne sait pas si c'est un Apple Car, mais en tout cas, d'une technologie voilà. Apple pour de la conduite autonome. Il a un nouveau chef. Parce que vous savez, Bob Mansfield, qui était le VP Hardware Apple, qui... était parti à la retraite en 2012, ce pauvre homme, retraite bien méritée avec ses milliards en actions Apple, a été rappelé chez Apple. Ils l'ont sorti de son hibernation ou de son île aux Caraïbes qui s'était acheté. Et ils lui ont dit, reviens, on a besoin de toi parce qu'on a un projet qui s'appelle Titan, là, et pour l'instant, c'est un titan au pied d'argile et on a besoin que tu viennes. Donc, il est revenu.
Que tu viennes.
Oui, il est revenu, on lui a confié le bébé, entre parenthèses avec l'eau du bain, hein, le bébé, et ouais. Du coup, ben, il est reparti, et là, il a confié le bébé à nouveau, avec l'eau du bain, qui avait entre-temps un peu refroidi, à un nouveau responsable,
au passage, ouais.
Mais oui, un nouveau responsable qui s'appelle John Gianandrea, qui est un titre très officiel chez Apple, VP of Artificial Intelligence. Donc, c'est le vice-président en charge de l'intelligence artificielle. C'est un sujet très chaud chez Apple.
Ouais, mais ça, c'est nouveau déjà que ce titre existe.
Mais oui, on le connaissait pas.
On ne le savait pas, en tout cas.
Non, on l'avait pas vu dans l'organigramme, hein, parce que, justement, l'AI n'était pas tout à fait au point, donc il n'a pas mis à jour l'organigramme, donc bon. Et alors, pourquoi ? Alors, la question, c'est mais pourquoi est-ce qu'on confie un projet de voiture ou de non-voiture à l'intelligence artificielle? Bah parce qu'en fait, à mon avis, tous les ingénieurs d'Apple se sont collés sur le projet et ils ont travaillé, ils ont bossé, ils ont dépensé des sommes dingues. Et non, ça marcha pas. Et donc, ils se sont dit, bon, attends, on va confier ça à notre deep learning et tu vas voir, ils ont une IA chez Apple genre Terminator sous stéroïdes. Et donc, du coup, ils se sont dit, le truc, il va nous sortir un truc incroyable. D'ici 2030, c'est bon, on va sortir notre système de conduite. Bon, donc tout ça vient d'un article de Cult of Mac qui est très intéressant parce que, pour une fois, il parle... des déboires de l'unité qui essaie de, l'unité très secrète, hein, qui essaie de produire ce système de conduite autonome Apple. Bon, parce que, en fait, j'insiste là-dessus, on ne parle pas de voiture, on n'a jamais parlé de voiture, hein. Donc,
c'est moi qui ai parlé d'Apple Car, mais c'était pour simplifier, hein.
Oui, non, mais il y a plein de gens qui parlent toujours, et même dans les médias sérieux et tout, de voiture Apple. Non, Apple n'a jamais dit qu'il faisait une voiture, hein. C'est un fantasme, il faut l'oublier. Donc, Apple travaille sur un système de conduite autonome. Donc, on parle d'un mélange de hardware et de software, mais à mon avis, s'ils arrivent à faire quelque chose, ça sera un système qu'ils vont revendre à d'autres constructeurs, comme ils ont fait avec CarPlay, parce que réfléchissez 30 secondes à ce que ça implique. Si Apple fabriquait une voiture, il faudrait d'abord qu'ils aient des usines pour la produire dans le monde entier. Ensuite, il faut la transporter, ça dépend où elle est produite. Ensuite, il faut avoir des batteries si c'est une voiture électrique. Ensuite, il faut avoir un réseau de revendeurs, il faut avoir un réseau de services et d'ateliers, de réparations et tout ça. Pourquoi est-ce qu'ils vont se compliquer la vie alors qu'il suffit, si leur système est bien, et un jour, quand il sera au point, il sera certainement très bien, c'est Apple, hein, ils peuvent le vendre sous licence à tous les constructeurs. Ils vont le vendre à tous ceux qui veulent une voiture qui se conduise toute seule. Nissan, Peugeot, BMW, même Ferrari a une licence CarPlay aujourd'hui. Donc, ils savent à qui parler. Hein. Donc,
ça leur évite de devenir concurrents de tous les autres aussi.
Mais bien sûr. Et surtout qu'ils sont établis, ils savent fabriquer des voitures à des millions d'exemplaires, ils savent les réparer, etc. Donc, je pense que c'est beaucoup plus simple pour Apple et beaucoup plus rentable de faire un système intéressant et de le vendre à quelqu'un. En plus, ils vont le vendre cher. Hein. Vous avez vu le prix où ils vendent un casque. Hein, donc, bon.
Là, oui, c'est ça.
Je me doute que... Voilà.
Voilà, forcément, ça fait rêver hein, ces projets de voitures autonomes sur lesquelles Apple travaille ou travaillerait dans un secret relatif maintenant, mais... un jour ou l'autre, on saura sans doute. Et dans iWeek, parce qu'on est passionné, on vit aussi des moments d'enthousiasme. Alors, deux, trois exemples comme ça pour vous donner envie, peut-être vous faire regretter de ne pas avoir été là. Plutôt, on va revenir au tout début. On était à l'épisode 5. On vous présentait iPadOS 14 et Jean-Christophe ne tarissait pas d'éloges et d'admiration pour une fonction qui s'appelle griffonner.
Ça fonctionne sur tous les iPads qui peuvent utiliser un pencil, donc en gros toute la gamme. Par ailleurs, il n'y a que l'iPhone qui aujourd'hui n'accepte pas l'Apple Pencil. Ça fait vraiment rêver d'un temps où Apple cessera de réserver le pencil aux iPads, parce que vraiment, c'est une fonction extrêmement utile, et notamment... Dans des cas extrêmement spécifiques, je ne pensais pas avoir à m'en servir. Moi, j'utilise beaucoup le pencil pour surligner des textes, notamment des contrats, puisque comme j'ai déjà l'occasion de le dire, je suis juriste. C'est super dans une appli comme PDF Pen. Vous pouvez ajouter des notes, des post-it et écrire les post-it à la main pour qu'ils soient immédiatement transformés en texte. Lisible tout un chacun et cherchable avec la fonction recherchée, et ça marche étonnamment bien avec mon écriture qui est une écriture vraiment exécrable qui damerait le pion à n'importe quel médecin. Ça marche.
J'étais, tu veux pas me faire une ordonnance?
Exactement, j'étais il y a pas longtemps avec des amis, pourquoi est-ce que je passerais un iPad Pro? Est-ce que le pencil fonctionne vraiment? Moi, j'ai une écriture je suis sûr que l'iPad la refuserait, et j'ai dit, regardez-moi écrire. Ils m'ont regardé remplir un post-it, en disant, non, ça passera pas là. Et ça, immédiatement, ça a été transcrit en anglais, parce que j'ai écrit pour mes collaborateurs qui sont américains, et ça a été transcrit immédiatement. Sous forme de caractère ASCII parfaitement lisible. C'est bluffant. Et moi, ça m'a rappelé, petite Madeleine au passage, ça m'a rappelé le Newton, qu'on est nombreux à avoir aimé et à avoir utilisé. C'est enfin la revanche du Newton. Ça fait des années qu'Apple promettait de réutiliser les briques du Newton pour certaines technologies. Elle le fait enfin. Avec l'iPad et c'est génial. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire à part essayer, ça fonctionne et on se prend vraiment à rêver qu'Apple accepte d'autres langues, le français bien sûr, mais pourquoi pas l'espagnol puisqu'il y a vraiment énormément de monde qui utilise l'espagnol, enfin qui parle espagnol aux États-Unis et donc qui serait ravi d'utiliser cette fonction. J'espère vraiment qu'on n'aura pas à attendre iPadOS 15 pour ça.
Tu l'utilises, cette fonction, Ellie ?
Ben, pour l'instant, elle ne marche pas en français. Donc ça, Jean-Christophe, qui est un américanophile comme nous le savons tous, lui s'éclate avec. Je me demande s'il n'a pas un clavier QWERTY d'ailleurs sur son iPad. Mais ça marche super bien en anglais. Je l'ai essayé, bien entendu. Mais en français, pour l'instant, non, pas encore. Donc, c'est pas encore prêt pour nos clients qui, eux, préfèrent s'exprimer dans la langue de Molière.
Et puis, il y a eu un épisode très important pour nous, pour la vie d'iWeek. Ça a été l'arrivée d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, sur Patreon. Vous le savez, Patreon, c'est ce site de financement participatif qui vous permet de nous soutenir et d'accepter de verser une somme d'argent modeste à chaque fois que nous, les éditeurs d'iWeek, on publie un nouvel épisode. C'est une manière pour vous de nous récompenser pour notre travail et de nous aider à continuer. Et évidemment, l'arrivée d'iWeek sur Patreon, ça a été le début d'une nouvelle aventure, puisque désormais, vous êtes une quarantaine, et on espère que ce nombre va augmenter encore. Vous êtes une quarantaine à nous aider toutes les semaines en acceptant de nous apporter entre 1,50€ et 10€ par épisode, selon vos possibilités. Mine de rien, c'est vachement important, Ellie, d'avoir ce soutien concret de la communauté.
Oui, parce que ça veut dire que, un, les gens croient en nous, qu'ils apprécient la qualité de nos contenus, et pour nous, ça va nous permettre, et ça nous permet déjà, un tout petit peu de pouvoir améliorer nos équipements, de pouvoir vous proposer à l'avenir une émission qui sera encore plus qualitative, avec peut-être d'autres rubriques, d'autres moyens qu'on mettra évidemment à votre disposition dès que nous le pourrons. Donc c'est très très important pour nous.
Alors dans iWeek, on fait aussi du test. Hein. On ne se contente pas de parler des nouveautés. On les demande aux fabricants, on les demande aux éditeurs. On met les mains dans le cambouis. Et moi, il y a deux tests qui m'ont marqué depuis qu'on a démarré l'été dernier. D'abord, il y a un test que moi j'ai réalisé, qui est le test de RX Suite, donc ce logiciel de traitement de son qu'on doit à l'américain Isotope. Vraiment bluffant. Je m'en sers toutes les semaines pour améliorer les fichiers du podcast. Et voilà ce que ça donnait. Mon test de RX Suite Advanced. Dans l'épisode 3 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Si vous êtes guitariste, je vous présente Guitar Denoise. C'est un nettoyeur intelligent qui débarrasse les enregistrements des bruits d'ampli, des mouvements de doigts sur les cordes et même de l'impact du médiator. En fait, RX Suite va commencer par isoler ces bruits parasites. On peut même les écouter seuls, rien que. Écoutez ce que ça donne. Bon, voilà maintenant le fichier brut, donc sur lequel il y a encore tous ces bruits parasites. Et puis voilà le fichier nettoyé par RX Suite. C'est magique. Plus aucun bruit parasite. Et ça se fait quasiment automatiquement. Il n'y a quasiment aucun réglage à faire. Le ronronnement d'un ampli de guitare. Je ne sais pas si vous avez fait de la guitare. Ça peut être atroce sur un enregistrement. On entend ce ronronnement en fond. Écoutez cet extrait où l'effet et le ronronnement de l'ampli est présent, puis disparaît en un clic. Et on va l'entendre plusieurs fois apparaître et disparaître. Autre fonction bluffante, celle qui permet à partir d'un fichier mixé de reséparer les instruments, les voix, pour refaire un mix. Alors, petite démonstration, voilà le mix global. On applique l'effet, voilà maintenant juste les voix. La batterie. La basse et tout le reste. Autre exemple, le mix global. Around, maintenant que les voix. Le reste, la basse, la batterie. Assez bluffant. Et puis, je voulais vous présenter un effet qui s'appelle Spectral Recovery, qui fonctionne à base d'intelligence artificielle. Ça revient pour de l'audio à transformer une VHS en 4K. Par exemple, vous partez d'un fichier son mauvais, très compressé, et en fait, vous allez lui redonner tout l'espace disponible, toute la largeur de bande disponible.
L'amplitude.
Voilà, toute l'amplitude. Ça pourrait être un fichier comme celui-là. Un mauvais fichier.
He told reporters that the explosion had resulted in an estimated $3 to $5 billion in damage.
Et voilà ce que ça donne après le passage de Spectral Recovery.
He told reporters that the explosion had resulted in an estimated $3 to $5 billion in damage.
Voilà, et sur le spectrogramme, on voit les tranches du spectre qui manquaient et qui sont réinjectées par le soft. C'est vraiment assez saisissant. Voilà, les exemples audio hein, que j'avais diffusés, Ellie, étaient vachement impressionnants.
Oui, totalement bluffant. Et d'autant plus que moi, c'est un logiciel, tu vois, que je ne connaissais pas du tout. Donc, je l'ai découvert à ce moment-là et j'ai trouvé ça incroyable.
Alors, pour tout te dire, je m'en sers aussi depuis pour éliminer les bruits de fond qui existent parfois sur les enregistrements de vos micros. Par exemple, quand ton ventilateur se déclenche et que ça crée ce petit bruit de fond qui peut être désagréable, et ben je passe ton fichier dans RX8 avec une fonction qui s'appelle Dialogue Isolate. Alors, ça prend un petit peu de temps, hein, ça peut prendre une bonne demi-heure pour ton fichier, mais ça élimine totalement le bruit du ventilateur.
Écoute, aujourd'hui, il n'y en a pas. Grâce à mon installation de fortune, on vous montrera une photo un jour.
Je crois que tu as posé ton ordi sur la grille du micro-ondes, c'est ça?
C'est ça. De façon à ce qu'il y ait un vide dessous. Et il tient en équilibre posé sur une imprimante. Hein. Donc c'est vraiment du grand bricolage, mais ça marche.
Voilà, vous comprenez pourquoi on fait appel à vous avec Patreon. D'ailleurs, je n'ai pas rappelé l'adresse, hein. patreon.com/iWeek. Ou si je l'ai peut-être dit, mais on le dit jamais trop, donc patreon.com/iWeek pour que Ellie puisse laisser sa grille de micro-ondes dans son micro-ondes.
Et oui.
C'est sympa. Et puis, il y a un autre test que moi, j'ai adoré parce que j'ai découvert, bah, comme toi, comme tu as découvert RX8, moi, j'ai découvert les caméras Eufy, des caméras compatibles HomeKit qui valent presque rien et qui sont au bord de la perfection, j'ai l'impression, Ellie.
Oui, et qui se sont d'ailleurs améliorées. Pas avec leur logiciel interne, mais tout simplement parce qu'Apple, avec iOS 14, qui est arrivé après notre test, a rajouté des fonctions qui étaient déjà dans le logiciel Eufy et qu'on perdait dès qu'on voulait la compatibilité HomeKit, à savoir les zones de détection et un certain nombre d'autres petites fonctionnalités dont on avait parlé. Donc, il faut savoir qu'elle marchait déjà super bien et maintenant, elle marche encore mieux qu'avant sur HomeKit. Est toujours au même prix et il y a toujours des promos en cours, c'est ça qui est fou.
Voilà. Et donc, on avait parlé d'ailleurs de cette petite aberration quand on activait la compatibilité HomeKit, on perdait à l'époque un certain nombre de fonctions. Et ben voilà, ça fait partie des choses qui ont évolué et qui ont été corrigées.
Oui, c'est assez incroyable parce que des caméras, on en a tous vu. Tout le monde a en tête un prix qui est entre 100 et 200 euros pour une webcam. Très souvent, ce sont des caméras fabriquées en Chine, mais plutôt de mauvaise qualité, avec des apps qui permettent de les piloter, qui sont propriétaires, qui sont incomplètes. Et là, on a eu la très bonne surprise de trouver une société qui fabrique des caméras qui sont vraiment très belle, matériaux de très très bonne qualité, un processus d'installation ultra simple, tout en français bien entendu, et des caméras avec une qualité d'image qui est dingue, et en plus un logiciel qui est ultra complet.
Alors, deux caméras tu dis, bah vas-y, raconte-nous. Raconte-nous.
Alors,
ces deux caméras.
Oui, donc ces deux caméras qui sont appelées des caméras 2K, parce qu'en fait on parle de leur résolution, il y a un premier modèle qui est une caméra fixe, qui peut ressembler à une Circle, à une Ivcam, à une Etatmo, voilà. Donc Jean-Christophe a la caméra à l'image, moi aussi, mais vous ne pouvez pas les voir. Donc on va essayer de vous les expliquer. Donc la première est une caméra classique, avec un objectif grand angle, c'est du 130 degrés, ce qui est pas mal. C'est celle-là qui a le prix magique de 39,90 €.
C'est impressionnant.
Et pour ce prix-là, vous avez non seulement une caméra, mais surtout un petit système d'alarme à lui tout seul, parce que cette caméra est équipée d'un détecteur de mouvement. Donc pour ceux qui habitent dans un studio ou dans un petit appartement, ben stratégiquement placé, ben quand vous n'êtes pas chez vous, vous avez un système d'alarme qui est super performant.
Des tests, vous en avez aussi dans Eric, la semaine Apple, le podcast. Si vous écoutez la chronique de François, dédiée justement à la domotique, à la sauce HomeKit, c'est ma maison connectée. Allez, un exemple comme ça, c'était dans l'épisode 3, le test des thermostats connectés avec François.
Quand j'ai emménagé dans mon appartement, je me suis dit, c'est quand même pratique le thermostat. Le thermostat d'ambiance, le principe de base, c'est on a un petit boîtier qui est relié à la chaudière et on lui indique quand est-ce qu'on veut que la chaudière chauffe, quelle température on veut avoir, vous partez, vous pouvez le couper, etc. Je me suis dit, ce serait intelligent, mais ce qui serait encore plus intelligent, c'est de pouvoir en trouver un modèle qui soit connecté, qui soit pilotable à partir du téléphone, dans l'idéal à partir de HomeKit. Et il y a plusieurs marques qui sont sur le marché. Moi, j'ai fait le choix de Netatmo, qui a sorti un thermostat connecté il y a un paquet d'années maintenant, il y a au moins 6-7 ans, je pense. Ouais. Il y a d'autres marques comme Tado, je sais que Gilles l'utilise, il pourra nous en dire un mot tout à l'heure. Voilà, l'idée, c'est de vous présenter ça et pourquoi ça a un intérêt.
Alors, comment ça marche un thermostat connecté, François, et comment est-ce qu'on le relie à sa chaudière ?
Alors déjà, moi, dans le cadre de mon appartement, c'est une chaudière au gaz de ville. Maintenant, ce type de thermostat, vous pouvez le brancher aussi sur un chauffage électrique, sur une cuve de fuel, etc. On peut vraiment le brancher sur n'importe quel système. Donc le système de Netatmo, lui, il est composé de deux boîtiers. Il y a un petit boîtier qui est relié directement à la chaudière. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez tenter de le faire vous-même. Il y a juste trois fils à relier, en fait, des fils pilotes. Maintenant, je vous conseille quand même de faire intervenir un professionnel. Généralement, vous êtes obligé de faire venir quelqu'un pour vérifier votre chaudière tous les ans. Donc, pourquoi pas en profiter pour lui demander d'installer le petit boîtier. Et il y a une deuxième télécommande qui se présente comme un thermostat classique qu'on peut fixer sur le mur ou alors qu'on peut poser sur une table. Ou moi, dans l'occurrence, il est sur ma table de salon.
Élie, ça a l'air de rien, mais la domotique devient accessible à tous.
Oui, on a mis un petit moment parce que, bon, en tout cas, nous, chez iWeek, on s'intéresse à la domotique compatible HomeKit parce qu'on reste dans l'écosystème. Et il faut savoir que la domotique existe dans bien de domaines. Le roi Merlin propose un système qui s'appelle Enki, qui permet de connecter plein de choses différentes, mais qui n'est pas compatible HomeKit. Donc, on n'insiste pas là-dessus pour l'instant. On leur a déjà dit, je ne sais pas si tu te rappelles, au CES, on les avait rencontrés. Et ils nous avaient dit, oui, on regarde, mais il y a l'histoire des licences. Bon, maintenant, il n'y a plus de licences, il n'y a plus de chipset. Donc, ils n'ont plus d'excuses. Donc, je leur ai rappelé, donc dans une communication que j'ai eue avec eux, j'ai dit, mais il est où HomeKit ? Bon, pour l'instant, il n'y a toujours pas de date prévue, mais peut-être un jour. Mais il y a des grands acteurs en France qui maintenant sont compatibles HomeKit. À partir du moment où vous avez Legrand qui est compatible HomeKit, que vous avez IKEA qui rend la plupart de ses produits compatibles HomeKit, ben, il n'y a pas de raison que les autres ne le fassent pas, surtout que maintenant c'est gratuit. Donc voilà. Mais en tout cas, oui, c'est passionnant. C'est un univers qui grossit à chaque fois. Et on a fait d'autres essais pour incorporer. On avait parlé de Homebridge dans un autre épisode. C'était passionnant aussi parce que ça rajoute d'autres accessoires. Il y a même une box domotique qui est compatible HomeKit aujourd'hui. Pas officiellement, mais c'est supporté quand même. On en parlera dans un épisode futur dès qu'on aura un peu une certification officielle, parce qu'aujourd'hui ça marche, mais c'est un peu du bricolage, donc on peut pas trop garantir ça pour nos auditeurs. Mais oui, c'est un univers passionnant et ça change tout le temps. Moi, si vous regardez le tableau de contrôle de mon iPhone, c'est en fait un écran d'iPhone composé de boutons HomeKit, hein, grosso modo. Hein. Donc, j'ai autant de lumières connectées que François et quelques autres équipements, mais chacun a ses spécialités et j'avoue que François, il est très fort dans ce domaine, donc je lui laisse le lead très volontiers.
Et puis, Jean-Christophe nous prépare le test de sa serrure connectée. Ce sera pour sans doute les semaines de janvier. Alors, je voudrais qu'on s'arrête une seconde, Ellie, sur une caractéristique de Daywick qui me tient particulièrement à cœur. C'est notre liberté et notre indépendance. Dans Daywick, on est là pour faire la promo de personne. Je tiens à le dire et à le redire, c'est très important. C'est aussi pour ça que votre soutien sur Patreon compte, parce qu'il nous permet de nous affranchir de la pub. Même si vous en avez sur le début des podcasts à certains moments, ce sont vraiment des revenus complémentaires que nous ne pilotons pas du tout, qui sont gérés par notre hébergeur de podcasts. Et il n'y a aucune interférence entre ce qu'on fait et les pubs qui sont diffusées. D'ailleurs, on n'est pas au courant des pubs qui vont passer. Donc là-dessus, on est complètement transparent. Cette indépendance, Ellie, elle nous permet, à certains moments, de dire ce qu'on a sur le cœur et de le faire à chaque fois que c'est nécessaire.
Oui, c'est ce qu'on appelle, nous, les coups de gueule, même si souvent ils sont gentils. Hein. Donc, il y avait une émission qui faisait ça aux États-Unis, sur CNET, où ils parlaient de « bad apple ». Il y avait les « good apple » et les « bad apple ». C'était souvent des « bad apple » d'ailleurs. Mais depuis que notre confrère s'est un tout petit peu fait virer de cette émission, il n'y a plus de « bad apple ». Nous sommes donc les derniers à pouvoir dire ça.
Alors, on tient tellement à cette indépendance que, un peu par provocation, on a consacré une rubrique qui s'appelle « La connerie de la semaine ». C'est Gilles qui s'en charge. Alors Gilles n'est pas avec nous toutes les semaines, mais il a déjà sévi plusieurs fois. Deux exemples, deux souvenirs de coups de gueule de Gilles. C'était dans les deux premiers épisodes d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. On va les enchaîner. Si vous vous souvenez bien, il était question du patron d'Epic Games, à savoir Tim Sweeney, et de Mark Zuckerberg.
C'est le gars qui s'est fait prendre la main dans le sac le mois dernier, lors d'une édition parlementaire, avec un mail prouvant que le rachat d'Instagram avait été mené pour neutraliser un concurrent. Alors, vous avez vu la vidéo peut-être, ou pas vu, je vous la conseille. On aurait dit une grenouille dans une casserole dont on aurait fait monter lentement la température. Là. Le parlementaire était génial.
Et qu'est-ce qui fait que Zuckerberg est pas content après Apple, Gilles ?
C'est parce que iOS 14 va permettre de choisir enfin quelle publicité on veut vraiment accepter et surtout supprimer la possibilité d'installer des traceurs, ceux qui permettent au site de vous suivre d'une application à l'autre, d'un surf à l'autre et surtout de croiser les appareils avec vos identifiants et de savoir exactement qu'est-ce que vous avez fait, où et comment, ouais. À partir de iOS 14, le suivi doit être choisi explicitement, un peu à la manière de ce qu'on a sur Safari, mais c'est beaucoup plus facile en résidentiel, tandis qu'en déplacement sur l'iPhone, on fait pas vraiment attention à ce qu'on fait. C'est à la fois une histoire de gros sous et puis une querelle d'égo. Parce une querelle d'égo, parce que Tim Sweeney, qui est le patron d'Epic Games, reproche à Apple de ne pas le prendre au sérieux. Il y a un certain nombre d'emails qu'il a lui-même rendus publics, mais il a eu une communication extrêmement violente à l'égard de la marque et de Tim Cook. Ellie en parlait tout à l'heure. Ils ont mis en ligne, et c'était prémédité, l'escalade était prévu immédiatement après l'exclusion de Fortnite de l'App Store. Ils ont mis en ligne une parodie vidéo du clip de 1984 au lancement du Macintosh, et c'est Tim Cook qui est parodié, qui est représenté en Big Brother. Puis on tape, c'est vraiment ad hominem, on s'attaque. Tim Cook est un fan de basket, hein, il n'en fait pas mystère. C'est un sport de non-contact. Or là, Sweeney joue le bonhomme. Hein. Ça ne se fait pas du tout.
Oui, c'est pas du tout des codes. Hein. Même si ça rapporte de l'argent. Parce que,
Hein, n'empêche, c'est... on est sur un monde assez, assez feutré, il y a des codes. Là, c'est du bullying, comme disent les Américains. Ouais. Et c'est pour ça que c'est directement le service
bullying,
juridique...
Bullying, c'est harcèlement, enfin c'est bullying, c'est le harcèlement. Ouais.
Ouais. C'est directement le service juridique d'Apple qui a répondu au mail de Sweeney qui s'adressait aux exécutifs d'Apple, Tim, Phil Schiller, etc., etc.
Bon, dans le genre, n'a pas sa langue dans sa poche, Jean-Christophe est pas mal aussi, hein, Ellie.
Oui, c'est vrai que non seulement il est pas mal, mais en plus il a un regard décalé sur ses chroniques. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle Vue d'ailleurs. Mais c'est souvent assez intéressant.
Voilà, Jean-Christophe, donc, qui a une formation de juriste, qui a vécu des années aux États-Unis et qui a donc cette approche américaine et internationale sur l'actu Apple. Dans l'épisode 5, bah, il s'est intéressé, on va dire, à l'appli anti-Covid, à l'appli française.
Je ne sais pas si vous l'avez lu, les amis, mais cette semaine, on nous a rapporté que Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, pardon, s'est fait taper sur les doigts devant l'échec de Stop Covid,
ben oui.
L'app de partage
de traçage,
qu'il avait porté parce que...
Partage.
Pardon, l'app
de traçage. De traçage.
L'app censée tracer les porteurs de Covid pour justement isoler les cas à risque.
Voilà.
On se souvient qu'à l'époque, Cédric O avait lancé un projet 100% français sous le patronage de l'INRIA en très clairement et très... De manière, on peut lui rendre cette justice totalement à découvert, critiquant Apple et disant qu'Apple avait refusé d'aider et que l'État saurait s'en souvenir. On est dans cette dynamique un peu de l'État plus fort que les apps et que les éditeurs de logiciels et qui au fond, comme on le voit pour Stop Covid où une part infime de la population utilise l'application, notamment parce qu'elle est énergivore, alors que les couches proposées par Apple, les couches applicatives proposées par Apple et Google permettaient de justement laisser son téléphone tourner et Stop ouais. Covid de tracer plus efficacement, ce qui fait que elle est très utilisée en Europe, sauf en France. On voit bien que quand on met l'État en avant et en premier, en général, les applications sont moins bonnes et les App Store ont du mal à suivre.
Ouais. Et alors aux US, c'est comment ? C'est mieux ou c'est pire ?
Eh ben, c'est pire parce que le président américain a plus de pouvoir que Cédric O, le secrétaire,
ah bon ?
Le secrétaire d'État au numérique.
Sans blague.
Au fond, oui. Et au fond, c'est bien l'objet de ma chronique, c'est que c'est la même logique que je trouve perverse. Le président américain décide quasi seul que TikTok et WeChat sont, ouvrez les guillemets, dangereux. Parce que chinois.
Ouais.
Et donc, il les interdit. On est clairement dans le fait du prince. Comme Apple et Google, qui gèrent les deux App Store, les deux principaux App Store, mais quasiment les deux seuls App Store, sont des entreprises américaines, elles obtempèrent pour l'instant.
Ellie, toi aussi, quand c'est nécessaire, tu n'es pas le dernier à dire que les choses ne vont pas. Et je me souviens de ton désarroi au moment du lancement de l'iPhone 12.
Oui, parce que tu sais, quand tu as un produit qui est très attendu, tu sens que le marché est là, tu sens que les clients sont là, et que tu n'as pas les produits le jour du lancement, c'est juste catastrophique. Ça nous était quasiment jamais arrivé. Et il peut y avoir des concours de circonstances. J'ai essayé de comprendre et de me mettre à la place. Mais plutôt que de nous envoyer les produits 24 heures plus tôt, parce qu'il y avait un jour férié au milieu, hein, donc c'était le 11 novembre. Donc, plutôt que de nous envoyer les produits pour qu'on les ait le 10, de toute façon, on ne les aurait pas mis en marche, parce que tu sais qu'Apple traque les activations, donc on n'aurait pas pu, de toute façon. Ils ont préféré ne pas les faire voyager le 11 novembre, donc ils ont fait partir le 12, ce qui fait que pour que nous, on les reçoive, pour pouvoir les mettre en place le 12 au soir, déjà c'était impossible, mais le 13 au matin, quand on a ouvert et que les clients étaient devant la porte du magasin et qu'ils faisaient la queue, c'est juste dramatique parce que souvent, on n'a pas eu assez de produits pour les lancements, mais on en avait quand même. Mais là, faire un lancement avec zéro produit, Ça ne nous était jamais arrivé. Et là, les bras t'en tombent parce que tu as des clients, ils te font confiance, ils reviennent vers toi, alors que souvent, c'est plus facile de commander en ligne chez les uns et les autres, et qui sont à la porte de ton magasin et tu leur dis « Désolé, j'ai rien à vendre ce matin. Repassez cet après-midi si vous pouvez. » Donc, c'est compliqué.
Voilà, je vais rappeler que tu es à la tête de 4 magasins, donc 4 Apple Premium Resellers dans le sud, hein, Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Et puis, tu es aussi président des APR en France. Donc, c'est 54 enseignes, hein, si je ne me trompe pas.
Président d'honneur, hein, parce que voilà. Ça fait tellement d'années qu'on n'a pas eu de réunion que je ne sais même pas si les gens se rappellent de moi.
Hein. En tout cas, voilà, tu t'exprimes aussi parfois au nom des APR. Voilà ce que tu nous dis aujourd'hui avec un mois et demi de recul, mais je te propose de revenir mi-novembre, au moment où tu étais vraiment au cœur du sujet, c'était dans l'épisode 9.
Nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est vraiment la dernière roue du carrosse. On est la variable d'ajustement, ceux qui sont servis en dernier. Et c'est une fois que tout le monde est passé par là, si jamais il reste quelque chose, ah ben tiens, il y a des APR qui existent encore. Et c'est un tout petit peu frustrant parce qu'on met beaucoup d'énergie, beaucoup de patience et on trouve qu'on manque un tout petit peu de reconnaissance. Mais tout ça, c'est de l'ego, hein, donc... À la fin, ce qui compte, c'est les affaires, ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Et évidemment, on va faire une très bonne année avec l'iPhone et on sera très content, et avec les autres produits Apple. Et on va oublier, mais c'est dans des moments où on se bat, où on met beaucoup d'énergie pour réussir un lancement de produits et qu'on se rend compte que on n'est pas si prioritaire que ça, qu'on se sent frustré et des fois découragé et les quelques confrères que j'ai eu au téléphone expriment un peu la même chose. C'est un peu dommage qu'Apple ne pense pas un peu plus à nous comme des vrais partenaires. Mais bon, ceci est... Peut-être que je me fais des idées ou des histoires. Peut-être c'est un peu la déception. Peut-être que ça va passer. Mais l'intérêt d'un coup de gueule... c'est que ça permet d'évacuer un stress et une sensation comme ça d'insatisfaction et que derrière, on oublie.
Et puis, pour finir, on va laisser le dernier extrait à Jean-Christophe. Et c'était la semaine dernière, puisque de fil en aiguille, Jean-Christophe en est venu à se poser des questions assez fondamentales sur ce qu'Apple est en train de devenir. C'est pas très encourageant, mais on va dire que l'année 2021 va forcément... coïncider avec une nouvelle donne. Donc, on va refermer l'année 2020 sur ce constat pas très positif, pas très optimiste de Jean-Christophe. C'était donc la semaine dernière.
Encore une fois, le New York Times 2 sortirait pas une telle information à la légère. Si c'est vrai, donc, ça illustre, à mon sens, et malheureusement une nouvelle fois, une Apple en vase clos. Une Apple qui se parle à elle-même, qui tourne en rond dans sa belle soucoupe volante. Sûre de ses idées, et pour être clair, de son pouvoir, elle crée et impose. Vous voulez un casque ? Il sera 2 fois plus cher, plus lourd, et aura un étui de transport en plastique. Mais il fonctionnera parfaitement dans notre écosystème. Donc, vous l'achèterez sans doute. Vous voulez un nouveau processeur formidable, très rapide, et économe en énergie, et qu'on a créé avec beaucoup de soin depuis des années ? Bien. Mais vous supporterez un design vieux de 4 ans à mettre autour. Vous voulez jouer en dehors d'Apple Arcade, notre service avec nos jeux qu'on a poussés, approuvés justement, puisque Apple pousse la curation depuis de nombreuses années. Vous voulez jouer donc en dehors d'Apple Arcade, vous utiliserez Safari avec une expérience utilisateur forcément dégradée, même si de nombreux éditeurs font beaucoup d'efforts pour justement proposer des jeux en dehors de l'écosystème Apple, en dehors de la mainmise et du diktat, diront certains, d'Apple. Bien sûr, les prochains chiffres trimestriels me donneront sans doute tort et on dira Apple se porte comme un char, n'a jamais vendu autant. Point.
Et Jean-Christophe dit n'importe quoi.
Et Jean-Christophe dit n'importe quoi, parce que les gens sont méchants. Mais c'est oublié un peu vite, merci Benjamin, qu'Apple fournit des chiffres justement de moins en moins détaillés pour éviter d'avoir peut-être à reconnaître ou au mieux à intégrer ou à rectifier des erreurs de jugement. Est-ce que ceux qui savent ose encore justement tirer la sonnette d'alarme et dire que peut-être cette mainmise, cette capacité, maintes fois vérifiée, à toujours avoir raison, ou en tout cas estimer qu'on a raison et qu'Apple va dans le bon sens, le sens souhaité par Tim Cook, le sens souhaité, j'ose le mot, par ces mâles blancs de plus de 50 ans. Je ne le sais pas. J'espère qu'Apple écoute encore d'autres voix, est encore justement à l'écoute de ce public qu'il espère rassembler toujours un peu plus nombreux. Je l'espère, moi aussi, mais malheureusement, j'en doute.
Qui aime bien châtie bien, c'est ça le dicton, Eddie.
Oui, 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 il y a toujours des petites choses à dire, et c'est vrai que quand on est passionné, forcément l'expression de cette passion est soit surpositive, soit parfois un peu trop négative, mais bon, c'est ce qu'on ressent, hein, quelque part. Si on le disait pas, on serait pas honnête avec nous-mêmes. Hein. Après, ça peut changer assez vite aussi. Hein. Les positions sont changeantes suivant ce que fait Apple, et si jamais ils nous écoutent et que ça les aide à devenir un peu meilleurs. Moi, souvent, je dis du mal d'Apple, alors que c'est une entreprise que j'adore et que j'y ai consacré, en fait, la totalité de ma vie professionnelle. Et je dis souvent que c'est une entreprise schizophrénique et qui fait les meilleurs produits du monde. Et mes meilleurs copains sont des ingénieurs produits Apple, c'est des passionnés comme moi. Et en même temps, c'est une entreprise implacable avec son réseau de distribution, qui fait des choix qui ne sont pas toujours très justes, qui sont certainement très bons pour l'entreprise, mais pas forcément très justes pour les gens qui leur ont fait confiance au moment où ils avaient besoin, en particulier des Apple Center de l'époque. Et c'est une entreprise qui n'est tournée que sur le futur, c'est-à-dire que tu as beau avoir bossé 40 ans avec eux dans les moments les plus difficiles, ils s'en fichent complètement, mais vraiment. Hein. Donc nous, on a fêté nos 40 ans, je l'avais dit, je crois, à l'antenne, et j'ai pas eu un mot d'une personne d'Apple, pas un mot. J'ai eu des mots de tout le monde, de copains, de fournisseurs, même de gens qui ont vu ça sur LinkedIn, tu vois, et qui ne me connaissent pas particulièrement, mais qui ont vu 40 ans, ils ont dit bravo, 40 ans, c'est quand même un chiffre, etc. Pas un mot d'Apple. Donc bon, c'est comme ça, hein, c'est Apple.
C'est la fin de ce best-of des 4 premiers mois d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Merci à vous tout d'abord, merci de votre fidélité et de votre soutien. Merci à toute l'équipe de tout mon cœur, à toi bien sûr Ellie, mais aussi à Jean-Christophe, à François, à Gilles. Une équipe amenée à s'agrandir, d'autant qu'on est un petit peu en excès de testostérone, vous l'avez remarqué. Alors mesdemoiselles, si vous avez envie, contactez-nous via Twitter avec le hashtag iWeek. LSA. Merci à vous les soutiens Patreon. C'est votre contribution pour chaque épisode qui nous permet de continuer iWeek chaque semaine. Alors on a besoin de vous, et vous qui ne nous soutenez pas encore, ça représente le prix, allez, d'un café en terrasse à Paris par épisode. Autrement dit, allez-y, l'adresse est toute simple, patreon.com/iWeek. Merci d'avance, on a de très jolis projets pour lesquels votre aide nous est précieuse et indispensable. Apple Podcast, merci pour vos notes 5 étoiles, on en a besoin aussi, tout comme de vos petits mots sympas et bienveillants. Voilà, prenez un instant, écrivez le vôtre, on les lira à la rentrée, à l'antenne, c'est promis. Et puis tant que vous y êtes, abonnez-vous à iWeek, la semaine Apple, le podcast. On est aussi sur toutes les autres plateformes de podcast, y compris sur Spotify, sur Deezer et sur Google Podcast. Très bon réveillon. Salut Ellie.
Salut Benjamin. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste profiter une seconde avant de te laisser la conclusion finale pour un remerciement spécial. Merci à toi Benjamin, parce que d'abord, c'est toi qui fais le plus gros du travail pour ces émissions, et c'est surtout toi qui nous permet de vivre ce rêve, à nous qui sommes chroniqueurs et à tous ceux qui nous écoutent toutes les semaines. Donc, merci, merci.
Ça me touche beaucoup. Merci à toi. Tu le sais, c'est un bonheur d'être avec toi et d'être avec la bande toutes les semaines et de nous retrouver comme ça. C'est très important, y compris pour le reste de la vie. Je parle de ce qui n'est pas uniquement professionnel. Joyeux Noël à toi, Ellie. Joyeux Noël à vous tous, et on vous donne rendez-vous avec Ellie, avec toute la bande. Jeudi prochain, on sera le 31 décembre pour notre rétrospective de l'année 2020 pour Apple, et il s'en est passé des choses. Salut à tous !